Lundi 23 janvier 2026, il est 18h01 sur Radio Campus Paris, en FM 93.9 et sur le web. Et à 18h01, cette année encore, c'est l'heure de la relève. Bonsoir et bienvenue sur Radio Campus Paris pour votre quinzomadaire radiophonique consacré aux nouveaux talents et aux récits originaux. Ce soir, on va parler de logement et de vérité, de passé et de facéties. Mes invités sont autrices ou pianistes. Bonjour Catherine Leroux.
Bonjour.
Vous avez écrit « Peuple de verre » aux éditions de L'Olivier. Vous vivez au Canada et plus précisément au Québec. Y a-t-il une si grave crise du logement au Québec? Je vous pose la question parce qu'on a reçu il y a un peu plus d'un an Kev Lambert qui avait écrit « Que notre joie demeure » et qui parlait déjà de ce sujet.
Oui. Je pense que Kev et moi, on était branchés sur la même longueur d'onde quand on a commencé à écrire, mais c'est aussi qu'on constatait les mêmes choses dans des quartiers différents, mais qui connaissaient exactement le même genre d'enjeux. La rareté, les logements se sont fait extrêmement rares au cours de la pandémie. Il y a une grave pénurie de logements. Il y a beaucoup, beaucoup de gens dans la rue, dans des quartiers où on ne voyait pas de sans-abri auparavant, dans des villes où il n'y avait pas de problème d'itinérance. Et vous n'êtes pas sans ignorer à quoi ressemble le climat québécois. Donc, être sans logis en plein hiver, c'est
un risque. On va quand même le dire, en hiver, c'est moins 20. Ça peut être moins 20 degrés.
Ah, ça peut être moins 30.
Ah oui, j'étais optimiste. Bon.
Donc, à moins 30, le corps ne survit tout simplement pas.
Et on a une idée, parce que quand on est parisien, j'imagine que les gens qui nous écoutent pensent que la pénurie de logement est un phénomène très français. Est-ce que c'est les mêmes causes? Est-ce que... Je sais bien que vous n'êtes pas experte en logement, vous êtes romancière.
Je peux vous dire que, évidemment, c'est ça. Comme je l'ai dit, la pandémie a exacerbé le problème. Le coût des matériaux neufs a explosé. Il y a beaucoup de gens qui pouvaient se permettre d'avoir un logement à Montréal et un en région. Donc, ça a déplacé le problème ailleurs. Il y a eu beaucoup de divorces, je pense, pendant la pandémie. Mais les vraies causes, les causes fondamentales, c'est le fait qu'on a fait de nos lieux de vie un objet de spéculation immobilière. C'est ça le problème et c'est là-dessus que le gouvernement, en tout cas le mien, refuse absolument de légiférer. Et à mon sens, c'est complètement absurde. C'est un besoin vital de pouvoir se loger. C'est pas accessoire et ça devrait surtout pas être une méthode d'investissement.
On a commencé donc par parler du réel. On va parler maintenant de fiction, puisque vous, encore une fois, vous êtes romancière. Mais quand même, qu'est-ce qui fait qu'un fait social, j'ai envie de dire, comment plutôt la romancière s'empare du fait social, se dit ce fait social, c'est un bon sujet de roman? Alors, je ne sais pas si on raisonne comme ça, peut-être ma question est bête.
Votre question n'est pas bête du tout, mais j'ai toujours du mal à répondre à la question de l'origine de ce roman parce que les origines sont multiples. Pour ce qui est spécifiquement de la question de la crise du logement et de l'itinérance, moi, personnellement,
par
dans
exemple,
ma vie.
Vous étiez en colère,
oui,
il y avait une colère que vous vouliez exprimer.
Absolument. J'ai tendance, en général, dans mon écriture, à suivre ma colère et c'est toujours une bonne piste, mais pas n'importe quelle colère. Moi, j'ai vécu une période d'insécurité par rapport au logement autour de ces années-là, 2019, 2020, etc. Mais quand je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à vivre cette insécurité-là, que des familles, des amis autour de moi étaient fragilisés, insécurisés... En fait, quand je me suis rendu compte que cette colère commençait à s'étendre à un niveau beaucoup plus large que ma sphère personnelle, c'est là que j'ai eu la puce à l'oreille et puis que j'ai eu envie de m'attaquer à ce sujet-là.
Et est-ce que vous... Pardon, c'est de la psychologie un peu de comptoir, mais il faut en faire parfois. Est-ce que vous écrivez aussi pour évacuer cette colère? Une fois que vous avez terminé le livre, vous êtes apaisée ou...
Non, je ne suis jamais apaisée, moi.
Vous êtes sagittaire.
Par contre, oui, tout à fait.
Ah ben, j'ai lu le livre, hein, c'est écrit.
Non, par contre, je dirais que j'écris pas pour évacuer la colère, j'écris pour essayer de dénouer des nœuds, pour essayer de comprendre des choses qui me sont incompréhensibles, de les articuler, de les déplier, de les regarder sous plusieurs angles, et ça fait du bien.
Alors, justement, votre roman relate, je vais essayer de le reprendre comme on le découvre. Hein. Mmh. C'est la vie d'un groupe de femmes vues par une narratrice qui s'appelle Sidonie. Elles vivent ensemble. On ne sait pas trop où elles sont, on ne sait pas trop pourquoi elles sont ensemble. Elles se retrouvent dans des centres fermés parce que, je vous laisse peut-être raconter ou pas, qu'est-ce qui leur arrive.
Elles se retrouvent dans des centres qui sont une sorte de version modernisée des asiles, des workhouses britanniques, là, ces institutions où on reléguait les pauvres et les vagabonds au Royaume-Uni pendant des siècles et des siècles. Donc, notre bon gouvernement québécois, ne sachant plus quoi faire de toute cette population flottante, sans logis, décide de construire ces centres où on va gentiment les héberger. En tout cas, c'est ce qui est offert comme explication à la population, sauf que, bien entendu, on va se rendre compte tranquillement que ce n'est pas si gentil et ce n'est pas si accueillant comme milieu de vie et surtout que c'est peut-être pas aussi évident qu'on se l'imagine d'en ressortir quand on en a marre d'être là.
C'est quelque chose qui vous fait peur? Parce que l'idée est séduisante, c'est pas le mot. On se dit que ça pourrait être vrai, mm-hmm. Plutôt. Est-ce que vous avez travaillé sur un cauchemar comme certains écrivains comme certains créateurs qui expriment leur cauchemar ou est-ce que
je pense pas que ça me fait
peur. Vous avez voulu
pousser
quelque chose pour voir jusqu'où on pouvait aller.
Oui, plutôt ça. Je crois que j'ai rien inventé. On incarcère déjà la pauvreté. Je sais pas en France, mais dans les prisons canadiennes, les gens pauvres, les personnes vulnérables, les personnes racisées, les gens des Premières Nations sont surreprésentés dans les prisons, sans parler du fait qu'il y a énormément de migrants, d'exilés, de réfugiés qui se retrouvent dans des centres de détention sans avoir commis le moindre crime, autre que de n'avoir pas les bons papiers et qui peuvent rester là. On parle de parfois d'enfants très jeunes, là, pendant des mois et des mois. Je pense que ce qui me fait peur, c'est cette idée que il y a tout un pan de la population qui est gênante et qu'on essaye d'écarter, de cacher. J'ai lu un livre qui m'a énormément marqué en fait dans mes recherches qui s'appelle Capitalisme carcéral et là-dedans on explique que aux États-Unis du moins c'est financièrement avantageux l'incarcération.
Les prisons.
Oui. Ouais, pour les. Il y a beaucoup de gens qui en bénéficient.
Qui est Sidonie? Présentez-nous-la.
Sidonie est une journaliste.
Moi, j'ai toujours peur de raconter trop les histoires. Donc
je vous remercie.
Je vous laisse faire.
Sidonie est une journaliste. Les sujets qu'elle couvre sont les sujets sociaux, donc la crise du logement, la crise de l'itinérance. C'est un personnage très ambigu, je l'ai voulu comme ça. D'un côté...
On n'arrive pas à savoir si elle est sympathique, moi, je trouve.
On n'arrive pas à savoir si elle est sympathique, ni sincère, ni authentique. Je suis d'accord.
C'est rare qu'on ait un personnage dont on n'arrive pas à savoir si on l'aime bien ou pas.
Mais elle ne se laisse pas cerner non plus. Puis elle joue sur plusieurs tableaux, donc c'est difficile. À la base...
Donc elle est journaliste. Je vous ai coupé.
Elle manifeste beaucoup de solidarité et une solidarité dont je crois qu'elle est sincère envers les personnes au sujet desquelles elle écrit. Elle veut, par ses textes, par ses articles, attirer l'attention des gens sur les injustices, sur la souffrance de certaines personnes. Mais en même temps, elle est extrêmement ambitieuse. Donc, c'est dans ce sens-là qu'elle joue sur plusieurs tableaux, parce qu'elle aussi, elle profite de cette misère-là. Elle ne vit pas mal du tout au départ, Sidonie.
Elle vit
assez bien, elle a un bel appartement. Elle est mise sur la piste de disparitions mystérieuses dans les campements de personnes sans-abri. Et elle va enquêter là-dessus et finir par écrire un article qui va lui valoir une grande notoriété. Mais à un moment donné, les choses vont basculer et elle va se retrouver de l'autre côté du miroir, comme j'aime bien dire, dans un de ces centres où elle est peut-être là pour enquêter ou peut-être qu'elle s'y est retrouvée contre son gré. Même ça, on n'en est pas trop sûr au début. Donc, voilà.
Votre livre, on est dans la littérature, hein, pose la question du rapport des mots et du réel. Mmh. Est-ce qu'elle pose la question de savoir si est-ce qu'écrire quelque chose, finalement, c'est le faire exister?
Oui.
Et il y a par exemple cette idée que vous avez, hein, où on décide de donner un nom à ces gens-là, ils deviennent les inlogés. Mm-hmm. Le mot pourrait exister, je pense que vous l'avez inventé, puisque je l'ai jamais entendu à Paris.
Je l'ai traduit.
Je sais pas. Ah, c'est un mot anglais?
Il existe en anglais, unhoused.
On a aussi un moment où vous parlez de la langue qui ne veut plus rien dire, une espèce de langue comment dire, une langue, on dirait, technocratique, ici une crise sociétaire de translation systémique, de solutions concertées. C'en est presque drôle, mais c'est des choses qu'on entend. Ou encore, il y a encore un... J'ai vu encore autre chose. Il y a un moment où on inverse ce qui est dit et ce que ça dit avec le fameux happy. Oui. Je ne sais pas si vous voulez raconter ce que c'est. Vous aviez besoin de... Vous vouliez aussi parler de la langue et de la manière dont la langue changeait la réalité.
Absolument, oui.
Change Est-ce la que réalité. Ça vous met plus encore en colère que la situation, ça ? On a presque l'impression que ça vous met plus en colère en vous lisant. Je ne sais pas.
Ben, je suis écrivaine. Hein? Ma matière, c'est les mots. Et je n'aime pas que les mots soient utilisés pour détourner la vérité ou pour gommer les choses importantes. Je trouve que c'est une trahison de... Je veux dire, le langage, c'est ce qui nous constitue. C'est ce qui nous constitue psychiquement. Donc, quand j'entends des politiciens, c'est ça, utiliser des euphémismes ou manipuler la réalité à l'aide de certains termes, ça me fâche. J'ai commencé à réfléchir à ça il y a bien longtemps, quand on a eu une grande vague de grèves étudiantes en 2012. Et je me souviens qu'à un moment donné, les politiciens ont fait une espèce d'offensive dans les médias. Ils ont rebaptisé la grève le boycott des cours. Donc, ça a l'air anodin, mais ces termes-là viennent complètement changer le rapport qu'on a aux phénomènes, aux choses, aux gens, à la politique. Ensuite, ben, on a eu Justin Trudeau, notre cher premier ministre, que vous avez certainement pas entendu s'exprimer aussi souvent que moi, mais peut-être que vous avez remarqué qu'il y a une façon très particulière de s'exprimer en français, très, très alambiquée. Et puis, quand on décortique ses phrases, on se rend compte que non seulement il ne maîtrise pas du tout la syntaxe, mais deuxièmement, il ne dit rien.
Il n'y a rien de pire que les gens qui parlent pour ne rien dire.
Oui, oui, c'est insupportable. Donc, j'ai beaucoup voulu jouer avec ça. J'ai le personnage de la directrice, justement, de la Happy, je reviendrai à la Happy, qui parle une langue complètement cassée et puis qui essaie de... Tu sais, on voit qu'elle essaie là, de marteler ces espèces de phrases toutes faites par des spécialistes en relations publiques, mais elle maîtrise même pas assez bien la langue pour le faire.
Puisque vous revenez à la Happy, retournons-y.
Oui, HAPI, c'est un acronyme, Habitation Atelier pour Personnes Inlogées. Et je pense que ce mot-là dit tout à quel point on essaie de nous faire avaler des couleuvres des fois.
Mais par les mots, donc.
Par les mots.
Là, typiquement, c'est par les mots qu'on le fait.
Oui, tout à fait. Inlogé, ça procède de la même chose. Bon,
là,
ce mot-là...
Je ne vais pas y arriver. C'est l'euphémisation.
Exact, exact.
Et puis, c'est pire encore. C'est le mensonge. C'est un vrai
mensonge.
Oui,
c'est ça. Venez ici, vous allez être heureux, tout va bien aller. Mais c'est beaucoup le ton qu'on emploie au Québec. Les gouvernements ont toujours ce petit ton un peu comique. Il y a toujours un petit calembour. Mais tu sais, il y a beaucoup de paternalisme là-dedans.
Alors moi, ce qui m'a frappé en vous lisant et en même temps intrigué, c'est que vous avez été journaliste, vous-même.
Oui.
Je n'ai pas rêvé. Votre héroïne, donc, l'est aussi. Et à un moment... Elle invente une histoire, et comme cette histoire se réalise, on a l'impression qu'elle-même semble penser que si elle juste est en avance, c'est pas si grave. Et moi, j'aurais bien aimé savoir, même si vous n'êtes plus journaliste, est-ce que vous pensez qu'on peut accéder à une vérité par la littérature, donc finalement en inventant des histoires que normalement, ce que ne fait pas normalement un journaliste. Je ne sais pas si je suis claire, mais...
Je pense qu'on ne peut pas.
Journalistiquement,
contrairement à Sidonie, pour moi, il y a une limite
la
très claire. On ne peut pas inventer des choses en journalisme. Par contre,
est-ce que vous, en écrivant et en étant écrivain aujourd'hui, vous avez l'impression de continuer votre métier et de raconter aussi la réalité sans vous appuyer sur des faits?
D'une certaine façon, oui. Je pense qu'on peut toucher à quelque chose par la littérature, par la fiction, qui est inaccessible par d'autres moyens, par les moyens documentaires ou journalistiques. Et vous avez raison, Sidonie, à un moment donné, commence à réaliser que ce qu'elle écrit va s'avérer. Elle est un peu surprise de ça. Une des idées maîtresses pour moi du livre, c'est que l'écriture est une prophétie autoréalisatrice. Et c'est vrai à plusieurs niveaux. Je connais presque aucun écrivain qui n'a pas une histoire au sujet d'un texte qu'ils ont écrit puis qui ensuite s'est réalisé dans leur vie ou dans leur entourage. Mais je pense aussi que c'est pour ça que l'art et la littérature sont fondamentalement politiques. C'est par un effort d'imagination qu'on arrive à changer le monde puis à faire des révolutions. À la base, l'ingrédient premier du changement social, c'est l'imagination, c'est l'invention.
Vous voulez dire qu'aujourd'hui, par exemple, il faut inventer un nouvel avenir? On ne peut pas juste se contenter parfois d'être un peu déprimé de ce qu'on voit, c'est qu'il faut maintenant, j'ai envie de dire, se retrousser les manches et inventer des histoires, inventer un récit finalement.
Oui. Parce Je pense que, premièrement, on a parfaitement le droit d'être déprimé. C'est une réaction normale et saine. Mais par ailleurs, oui, bien sûr qu'il faut inventer. Bien sûr. Puis modestement, je crois que c'est ce que les romans font. Particulièrement les romans qui touchent un peu à l'anticipation, la spéculation. Ils ouvrent des possibles, ils agrandissent le réel pour qu'ensuite, on puisse l'investir.
Je ne vous ai pas demandé, vous lisiez quoi en préparant ce livre?
Justement, j'ai lu énormément. Orwell, ou... non, je lis beaucoup Ursula Le Guin parce qu'elle fait beaucoup de la science-fiction à saveur sociale. Mais j'ai surtout lu des sociologues, j'ai relu Foucault, j'ai lu énormément sur les workhouses britanniques, sur les institutions totales, sur l'univers carcéral. Et j'ai lu sur la vérité. J'ai lu des philosophes qui s'intéressent à la vérité. J'ai une formation en philosophie aussi, donc c'est souvent à ça que je reviens. J'ai lu Lévinas beaucoup en travaillant ce texte-là.
Oui, parce qu'il y a... Je ne l'ai pas pris. Parce qu'il y a quand même un bandeau. Je ne sais pas si vous qui l'avez choisi ou si c'est votre éditeur. Connaître la vérité, c'est fondamental, même si elle n'existe que dans notre tête.
Oui.
C'est la phrase que vous aimeriez qu'on retienne de votre livre?
Ben c'est pas moi qui l'ai choisi, mais oui, je suis bien contente que ce soit celle-là qui soit sur le bandeau. Oui.
Votre éditeur français?
Mon éditeur français, oui.
Donc l'Olivier.
L'Olivier. Je crois qu'il y a une chose qui m'a beaucoup frappée. J'avais entendu un compte-rendu d'études en neurosciences, je crois, qui disait que lorsqu'on entend un mensonge et qu'il est réfuté, neurologiquement parlant, le mensonge garde sa place dans notre cerveau. Il est jamais la réfutation, la vérité ne vient jamais effacer le mensonge. Et donc ça m'a marqué, moi, ça, l'idée que une vérité ou un mensonge, ça se taille une place dans notre psyché, dans notre cognition, qui est indélébile.
Et vous avez donc mêlé cette histoire, enfin vous avez mêlé cette cette intuition, cette idée à la crise du logement. Et c'est ça, oui, qui a été le gros du travail pour écrire votre livre?
Oui, parce que vous avez raison de parler de vérité. Une des choses que je voulais explorer avant même de créer mes personnages, c'était cette idée de la vérité, du mensonge et de où est-ce que la fiction, comment ça s'articule autour de la fiction.
Et avec une fiction qui n'est pas un mensonge.
Une fiction qui n'est pas un mensonge, exactement. C'est le mentir vrai. J'ai trouvé finalement... Bon, premièrement, j'avais envie d'écrire sur ce sujet, sur la crise du logement, sur l'itinérance, mais aussi, j'ai trouvé que ce genre de sujet très délicat politiquement, autour duquel, justement, il y a énormément de manipulation, de spin, de toutes sortes de discours politiques plus ou moins directs, plus ou moins honnêtes, c'était le lieu parfait pour parler de ça. En plus, parce que dans l'histoire, il y a quelque chose au début qui ressemble presque à une théorie du complot qui finit par s'avérer. J'ai écrit ça, vous savez, après le premier règne de Donald Trump, on venait de commencer à être inondés là, par les fake news. L'intelligence artificielle commençait à prendre son essor. Donc, l'idée que très bientôt, et peut-être déjà, on ne pourrait plus jamais être certain de ce qu'on entend, de ce qu'on lit dans les médias, sur Internet, de ce qu'on entend, m'a beaucoup imprégné pendant l'écriture de ce livre.
Je voulais quand même dire que dans votre livre, il y a au moins 2, 3, voire 4 récits en parallèle. Il y a notamment à la fin un récit qui raconte peut-être aussi comment vous-même, Catherine Leroux, mais vous-même, on ne sait pas si vous dites la vérité ou pas, vous avez été amenée à écrire ce livre. Il y a aussi le récit qui est l'histoire de Sidonie au présent, mais aussi comment elle est arrivée là. Puis il y a des phrases qui sont parsemées dans ce livre. Ça a été un gros travail d'art pour arriver à cette structure?
Oui, ça a été très compliqué. En fait, donc, vous l'aurez deviné, les gens qui écoutent l'auront deviné, la narratrice n'est pas tout à fait fiable. Par contre, le livre est écrit à la première personne et je m'étais mis dans la tête que c'était possible d'écrire un personnage principal non fiable à la première personne, alors que ça a été extrêmement difficile à faire. Donc, en plus des éléments que vous avez nommés, il y a aussi, entre les chapitres, des dialogues entre Sidonie et soit des co-détenus ou des membres de l'institution où elle habite. Ça a été tout un casse-tête de mettre ça ensemble. Je vous dirais que la partie à laquelle vous avez fait référence, les notes plus personnelles, ça a été celle qui était la plus facile parce qu'elle a été écrite presque en parallèle.
Ça a été très compliqué à faire, mais en tout cas, ça a été très bien édité parce que c'est très aisé à lire.
Merci.
Pour finir, je voulais vous demander, sans trop en révéler, dans votre livre, il y a un moment, il y a des enfants qui vont jouer un rôle majeur. Mm-hmm. Est-ce que c'était important pour vous de parler de cet enfant, des enfants, de leur vie mitoyenne à côté des adultes, parallèle, finalement peut-être mystérieuse et en même temps essentielle?
Oui.
Je vous laisse dire ce que vous voulez, là encore.
Les enfants, ça finit toujours par s'infiltrer dans mes livres. Je pense que c'est, ça aussi, c'est une affaire d'osmose. Ma vie est envahie par les enfants, donc mon écriture aussi. Mais blague à part, je pense aussi que les êtres les plus radicaux de nos sociétés, c'est les enfants. Et c'est pour ça que le changement vient d'eux.
Pas seulement parce qu'ils sont le futur.
C'est parce qu'ils sont le futur.
Mais aussi parce qu'ils sont radicaux.
Ben, leur imagination est radicale. Et donc, dans Peuple de Verre, les enfants, comme je le décrivais tout à l'heure, par leur imagination, vont ouvrir une porte que tous les adultes qui les entourent n'avaient pas vue, n'avaient même pas imaginée. Donc, leur place est fondamentale, mais en même temps, vous avez raison, ils évoluent vraiment en parallèle. Les adultes autour d'eux ne savent pas trop quoi faire de cette espèce de masse très tissée, très, très serrée d'enfants qui ne veulent pas vraiment discuter avec les grands, qui s'en tiennent à leur petit groupe.
Ça veut dire que vous nous appelez, nous, à retrouver notre âme d'enfant, ou est-ce que vous nous appelez à mieux regarder et peut-être à mieux écouter les enfants?
Les deux.
Les deux?
Les deux, je pense. On a beaucoup à apprendre, mais les Autochtones de Nouvelle-Zélande, je crois, ont un dicton, ou en tout cas leur sagesse populaire veut que quand on planifie le futur, ce n'est pas sa propre espérance de vie dont il faut tenir compte. Il faut tenir compte de deux ou trois générations plus tard. Donc, notre vie se termine à la fin de la vie de nos arrière-petits-enfants. Et c'est de ce laps de temps-là dont on est responsable. Je crois que si on réfléchissait dans ce temps-là, le monde serait complètement différent.
Vous ferez quoi moi, je vais revenir à un horizon plus rapproché, pardon. Vous ferez quoi le 12 mai? Vous ne savez pas encore?
Le 12 mai?
C'est une blague, parce
vous
que le 12
mai... Vous me prenez de court.
Le 12 mai à Montréal, dans la salle Bourgie, il y aura notre invité suivant qui sera là, qui s'appelle Gaspard Dehaene, et qui viendra jouer de la musique. Alors, vous pourrez peut-être aller l'applaudir.
Mais certainement.
Il va arriver. On écoute un peu de musique et on retrouve Gaspard Dehaene. Merci beaucoup. Merci d'être passé par le studio. Je crois que vous êtes attendu à l'autre bout de Paris maintenant. Alors, bonne soirée et merci encore d'être passé. Merci à vous, Catherine Leroux. Je redonne le titre de votre livre, Peuple de Verre, et ça a paru aux éditions de l'Olivier. C'était Björk, Human Behavior, et puis elle a été coupée, c'était du chantage. Bonjour, bonsoir, même Gaspard Dehaene, on est avec vous maintenant.
Bonsoir.
On sait que le 12 avril, vous serez à Montréal.
Le 12 mai.
Le 12 mai. Vous jouerez quoi ?
Ah, un programme passionnant qui s'appelle Schubert sur la terre et Mélodie française en mer. Le titre est un peu long, mais l'idée...
Ça fait référence à votre album précédent, non ?
Non, pas particulièrement, mais plutôt un projet avec une amie chanteuse, Victoire Bunel. On avait été engagé il y a déjà 3 ans à la Salle Bourgie pour jouer un concert donc en duo piano-voix. Et donc on a été réengagé. Donc c'est une occasion de participer à l'intégrale des Leaders de Schubert qui se tient pour les 3 années à venir jusqu'à donc 2027. Qui est donc la date de l'anniversaire de la naissance de Schubert.
Vous êtes musicien classique, je pense que
28,
tout...
pardon, l'anniversaire de la mort de Schubert, pardon.
Je ne savais pas marquer. Vous êtes musicien classique, on l'aura compris. On vient d'écouter Björk, pour vous c'est insupportable, c'est une musique que vous pouvez aimer. On imagine toujours les musiciens classiques éthérés vivant dans un autre monde. Donc je me demandais si quand on aime la musique, qu'on aime toutes les musiques, même si on en trouve certaines plus faciles que d'autres peut-être.
Chacun est différent. Moi j'ai eu un parcours dans mon rapport à l'écoute de la musique assez conventionnel. Dans un premier temps, j'écoutais ce qui était à la mode. Et ensuite, quand j'ai découvert mon attirance irrésistible pour la musique classique, je n'ai plus fait que ça et je suis devenu un peu comme un ayatollah. Et maintenant, j'en reviens un peu parce que je me rends compte aussi que la musique classique, comme la musique d'aujourd'hui, a besoin aussi d'une... en tout cas pour moi, j'ai besoin d'un rapport aussi simple. Un rapport décomplexé, un rapport, j'aime toujours de plus en plus le jazz et je suis très sensible tout simplement à la variété de la musique que j'écoute. Ce qui m'insupporte, c'est évidemment quand c'est trop monotone ou que le rythme ne se développe jamais. Mais dès qu'il y a une recherche un peu instrumentale, d'orchestration, comme c'est le cas avec Björk qu'on a entendu, ça me plaît en fait, parce que je vois aussi les ramifications, la descendance, pour faire le lien ensuite avec précédemment, sur Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, etc., puis le jazz, puis entre Ravel, le jazz, et puis la pop musique, le rock, etc. Et en fait, dès que je ressens la continuité, je suis heureux.
Vous avez eu de ce que j'ai lu et vu et de ce que j'ai entendu de vous en préparant, vous avez eu une sorte d'épiphanie en écoutant une pianiste à Noyers-sur-Saône, beau département de Lyon, puisqu'il m'a vu grandir.
Oh, ouais, bien sûr, je la salue, Feriel Cadeau, parce que c'est une figure bien connue des étudiants à Paris. Elle a donné cours notamment à Normale Sup, à Polytechnique, et une personne brillante, qui est une pianiste avec une très forte présence, qui m'a effectivement séduit en jouant la 4e ballade de Chopin quand j'avais 15-16 ans, et j'ai voulu faire pareil.
Mais à 15-16 ans, vous n'écoutiez pas du rock ?
J'écoutais du rock. J'écoutais du rock.
Ou du rap ou autre chose.
J'écoutais ce qui était à la mode. Alors oui, effectivement, c'était du rock, même du rock assez violent, je me souviens. Du métal, on essayait de se trouver. Mais franchement, pour moi, à l'époque, écouter de la musique, c'était une sorte d'identité. Alors, à l'adolescence, évidemment, on a besoin de se trouver une identité. Donc, au même titre que de porter tel ou tel vêtement, je suivais un peu ça. Mais...
Et donc, il y a vraiment un moment, une épiphanie, un truc qui se passe très fort, où en entendant cette femme jouer, vous dites « je veux faire ça ».
Ouais. C'est devenu une sorte de fil logique... Que je ne pouvais pas ne pas accepter, prendre tel quel. Je suis tombé amoureux de cette ballade de Chopin, puis ensuite de Chopin au sens plus large, puis ensuite de Beethoven, puis de Mozart. Et puis en fait, à force de mettre les doigts là-dedans et vraiment de ne pas compter les heures au piano et à l'écoute, je me revois avec mon Discman, avec des sacs à dos en partant au lycée. Ça ne nous rajeunit pas.
Ah oui, ça devenait une obsession. C'était vraiment obsessionnel.
Ah ouais. J'avais besoin, un peu presque comme un collectionneur aussi, de découvrir toutes les versions, par exemple de la 4e ballade. Et puis de fil en aiguille, c'était devenu une évidence indéniable que je ne pourrais pas faire autre chose. Donc il fallait continuer.
J'ai quand même manqué à tous mes devoirs parce que j'ai oublié de dire que vous étiez notamment là parce que vous sortiez un... Alors je ne sais pas si on dit encore un album, parce qu'aujourd'hui tout s'est dématérialisé, qui s'appelle Forêt en héritage, qui a été édité par Mirare. J'aurais juste encore un peu parlé de vous. On va parler que de vous, mais vous avez voulu faire être joueur de tennis, vous le dites, on vous présente, je crois, très souvent comme ça. Entre le pianiste et le joueur de tennis, le point commun, c'est la solitude ?
Ah oui, bien vu. Ouais, exactement. Parce qu'en fait, le sport, c'est une grande famille de pratiques diverses et variées. La musique, c'est pareil.
Vous auriez pu être footballeur, voilà. Par exemple, mais vous vouliez être tennisman.
Ouais. Et le tennis, effectivement. Et le tennis et le piano sont deux sports qui effectivement, exigent d'aimer une certaine solitude, une certaine forme de solitude. Et je dirais que justement, je l'ai mal vécu au tennis parce que notamment j'avais, vous savez, on se bat contre soi-même hein, dans la vie en général. Et ça, le tennis est une formidable école là-dessus parce que si on donne son meilleur, mais que l'adversaire en face est meilleur et plus fort que soi, eh ben adieu vat, c'est fini, c'est comme ça. Par contre, si l'on perd contre quelqu'un de peut-être de moins fort, mais juste parce qu'on n'a pas réussi à canaliser ses émotions et à mettre en place son jeu, on ne peut s'en vouloir. La défaite est d'abord la sienne propre. Et c'est vrai que j'ai eu du mal, justement, un peu au moment de l'adolescence, à combattre ces démons sur un court. Et peut-être que ça a été très formateur aussi dans mon rapport à la musique et à cette donc, nouvelle forme de solitude qui s'est imposée à moi.
Et dans les deux cas, il faut une grande maîtrise technique pour, au moment où on veut être le meilleur, tout lâcher.
Oui,
ça, c'est
exactement.
Quand même particulier dans la musique aussi, non ?
Oui, parce que c'est effectivement comme au tennis, on emmagasine un certain nombre de réflexes qu'on travaille
on joue,
au quotidien. On joue jamais deux fois la même balle et on joue jamais deux fois de la même façon le même morceau. Donc il y a toujours une forme d'adaptation qui est attendue de nous et c'est en même temps absolument passionnant.
Est-ce qu'il y a des morceaux que vous avez joué une fois d'une certaine façon et vous courez, c'est une image, après l'idée de le rejouer de la même façon et vous n'y arrivez pas ?
Oui et non.
Vous avez justement appris à lâcher, vous dites voilà, c'était le moment et je ne referai jamais comme ça.
Je pense que ça, c'est vraiment aussi. On peut aimer le piano ou la musique d'une façon amateur et puis le professionnel a ce privilège de monter sur scène. Ce qui fait qu'il y a cet inconnu du track, de la présence du public, de notre état de forme, de notre inspiration du moment, qui fait que on se laisse un peu emporter aussi par le moment. Je pense, comme tout le monde, hein, comme tous les musiciens, le point de départ, c'est la réflexion sur la partition, le texte, et ce que nous inspire ce texte. Mais il y a une marge qui est immense en fait dans un infiniment petit, à savoir la rigueur du texte. Donc ça peut pas être un objectif en soi que de se dire ah j'ai bien joué ce jour-là, j'ai joué comme ça, alors je vais exactement faire pareil. Évidemment, on pose des jalons, mais il y a forcément une part d'inconnu qu'on attend aussi.
Là donc vous publiez, je le redis, un disque qui s'appelle Forêt en héritage. Alors Forêt a été un musicien, je vous laisse un peu le présenter parce que vous le ferez sûrement mieux que moi dans quelques instants, qui a été aussi un professeur. Qu'est-ce qui vous a intéressé chez lui ?
Alors j'avais beaucoup d'idées pour faire un nouveau disque et j'avais d'abord pensé un peu à l'institution du Conservatoire de Paris, à faire un hommage à la belle époque et puis finalement à la pédagogie puisque je suis aussi professeur à l'École normale de musique de Paris depuis 5 ans maintenant et c'est, la pédagogie me tient beaucoup à cœur. Et en fait, Forêt s'est imposé aussi parce qu'il y a 2 ans, on a célébré le centenaire de sa mort. Et il a eu... Et puis, depuis...
Alors, il a dirigé le Conservatoire de Paris et il a eu des élèves.
Oui, voilà, exactement. Et donc, Ravel, Debussy et Ravel sont les héros de la musique française au premier plan. Et depuis, donc assez récemment, Forêt, maintenant, devient aussi incontournable. Et c'est tant mieux. Et donc, moi, je suis passionné par le début du siècle, le début
donc,
du
début
dernier,
du 20e. Du 20e, pardon, oui.
La belle époque. Il y a une effusion créatrice absolument hallucinante dans la mouvance des expositions universelles. Il y a celle de 1900, il y a celle de un peu quelques années avant avec la fameuse Tour Eiffel. Et on dirait que tout est possible d'un point de vue de la création et c'est fascinant et on le voit donc, et ça a été passionnant pour moi cette recherche de musique parce que j'ai découvert beaucoup de compositeurs différents, tous élèves de Fauré puisque c'est le fil conducteur et en même temps évidemment très 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 différents les uns des autres avec je dois dire évidemment s'ils ne sont pas aussi connus que Ravel et Debussy c'est aussi parce que j'oserais dire il y a des scories, il y a des pièces qui sont moins intéressantes que d'autres dans leur catalogue respectif, mais quand même, on sent justement, de par cette ouverture d'esprit qui m'a amené à découvrir diverses pièces, qu'il y a comme un laboratoire de création. Quand on crée, on peut pas faire que du parfait, malheureusement. Mais j'adore l'idée de me plonger dans ce bain de création.
On va écouter un extrait qui est le morceau qui ouvre l'album, qui s'appelle Allégresse. Juste pour quelqu'un là qui allume la radio peut-être, qui se connecte sur le site de Radio Campus Paris, qui va écouter peut-être le podcast. Qu'est-ce que vous avez envie, comme je vous ai demandé un peu vous, ce que vous avez fait d'écouter Björk, quelqu'un qui n'aurait jamais écouté de musique classique, vous avez envie de lui dire d'écouter quoi? La mélodie, le rythme, le... Qu'est-ce que vous lui de se laisser porter tout simplement?
Ouais, exactement.
Et de chanter s'il a envie en l'écoutant ou ça vous ça
oui.
brûle?
Alors si, moi j'aime bien dire aussi que l'écoute de la musique classique c'est aussi une sorte de stimulant cérébral et qui va déclencher des émotions. Mais évidemment, il faut être. C'est pas une boîte à rythme. C'est pas quelque chose qui nous prend physiquement. C'est quelque chose qui nous prend. Plus effectivement dans le registre oui cérébral au sens positif du terme mais le jeu le comment dire la finesse le caractère savant de ces grands compositeurs qui nous ont laissé donc des chefs-d'œuvre on ne peut pas y être insensible moi je pense qu'il est universel hein.
Parce qu'il faut quand même que je lance même si on soi-même on n'a pas la votre connaissance de cette qualité d'écriture,
oui.
de cette qualité de composition, se laisser aller, écouter et puis ressentir.
Bien sûr, un connaisseur de grand vin sera plus à même de savourer un très grand vin que quelqu'un qui connaît moins bien le vin. Mais s'il aime un peu le vin, il aimera bien le grand vin quand même. Donc c'est juste un entraînement que de se familiariser avec cette esthétique.
Alors, 1 minute 30 d'allégresse. Et on est toujours avec Gaspard de Anne qui il ne l'a pas interprété en direct, dont on vient d'écouter un extrait de son album consacré à Fauré. Là, par exemple, dans ce qu'on vient d'écouter, qu'est-ce que vous entendez avec votre science qu'est-ce qu'il y a, c'est les ruptures de rythme qui sont particulièrement originales.
Alors, il y a le titre déjà, Allégresse. Donc, j'aime beaucoup la musique à programme, à vrai dire, parce que. elle est inspirante et elle donne un élan. Et voilà, bah, l'Allégresse est quelque chose de peut-être, je sais pas, de printanier, une mélodie qui
nous emporte.
Ouais, qui nous emporte, exactement.
Est-ce que quand on est un musicien classique, quand on, comme là, comme vous, vous choisissez de faire ce disque, est-ce qu'on réfléchit à ce qu'on a envie de faire? Est-ce que vous avez aussi la préoccupation du public à vous dire, ce musicien-là, c'est pas sûr que ça marche, ou vous êtes relativement protégé de ça?
Ouais, on est un peu obligé de réfléchir à ce qui peut plaire ou non. Ça dépend des programmations, des endroits. Il y a des endroits avec des, où on est plus ou moins frileux sur les, je sais pas, par exemple, la musique contemporaine. Il y a des publics qui ont besoin peut-être d'avoir un peu plus de tubes. Moi, en tout cas, pour mon disque, j'essaye de contenter tout le monde, entre guillemets. D'avoir des...
Là, c'est pas mal parce qu'il y a à la fois des, il y a des noms, comme vous l'avez dit hein, déjà. Hein, je vais quand même citer, il y a Fauré, il y a bien sûr Ravel. Et il y a aussi, ben voilà, je l'ai raté, il m'en manque un. Mais on découvre aussi des gens comme Mel Bonis, Lily Boulanger, Nesco, Koechlin, L'Admirour, Roger Ducasse, Schmitt.
Ouais, voilà, j'ai essayé évidemment d'avoir quelques tubes, ne serait-ce que pour mon plaisir à moi. Quand j'ai appris la pavane de Fauré, tout le monde connaît ça,
ouais.
Mais ça m'a fait un plaisir fou. Et voilà, et après, découvrir d'autres pièces dans lesquelles j'ai peut-être un plus grand rôle finalement en tant qu'interprète, parce qu'il s'agit de défendre ou de faire connaître ces pièces, c'est aussi un défi et un plaisir en soi.
Vous l'avez dit, vous êtes vous-même enseignant. Vous espérez transmettre quoi?
Oh là là. bon.
Espérez. Hein, je dis pas que vous y arrivez. Mais qu'est-ce que vous espérez transmettre?
Non, bah, j'ai envie. Alors évidemment, si je sens que j'ai des élèves qui sont passionnés, mon désir c'est de préserver ça chez eux. Parce que malheureusement, il y a toujours un côté. Il peut y avoir dans le fait d'enseigner quelque chose qui peut faire s'éroder la passion chez l'élève. Je l'ai moi-même ressenti plus d'une fois.
C'est quoi? C'est le professeur qui est jamais content?
Ouais, c'est ça, c'est ouais. Ça. Et en même temps, bon, bah, c'est la transcendance. Évidemment, si c'était facile, on le saurait. Et donc voilà. Ou soit de la faire naître, soit de la préserver, c'est la passion. Et justement aussi, peut-être que le perfectionnisme, l'envie de toujours plus aller chercher l'essence, la vérité dans la pièce, d'une pièce que l'élève interprète, devienne en soi aussi une quête passionnante, qui fait partie de la passion de la musique.
Vous-même, vous fantasmez d'avoir, alors je ne sais pas si on peut dire une lignée, je ne sais pas comment dire ça, mais en tout cas, d'avoir comme Fauré tous ces élèves prestigieux, c'est quelque chose que vous aimeriez? Peut-être plus que briller vous-même, par exemple, ou pas?
Oh, pff, alors bon, briller
la
déjà.
La question elle peut être nulle, hein, vous avez le droit de le dire.
L'idée de briller me plaît, mais c'est pas un but en soi pour moi. Oui, j'aimerais bien. Oui, bien sûr. Si on a un tableau de chasse, on est fier de le montrer. Après, vraiment, quand j'enseigne, je m'oublie en quelque sorte, et c'est ça mon plaisir en fait aussi. C'est que on est deux avec une partition et essayons d'améliorer les choses et je me rends compte avec plaisir que souvent je suis parfois même enfin beaucoup plus inspiré quelque part avec l'élève qu'avec moi-même. Alors ça, et en fait c'est après que quand je me mets au piano moi-même j'arrive à un peu plus m'aider moi-même. Mais non, bon, on verra bien hein. En tout cas j'essaie de faire de mon mieux, ce qui est aussi en fait ce que je pourrais vous dire, c'est que j'espère aussi que je fais apprendre autant que j'apprends moi-même.
C'est quoi le plus grand plaisir d'un enseignant? C'est ça justement?
Bah c'est ça, c'est qu'en fait on essaye d'aider, mais je pense qu'on apprend encore plus. En tout cas, moi je le ressens, et je le ressens comme ça. Et puis peut-être aussi l'humilité de se dire, bah, y a des choses qui prennent du temps, et on peut voilà, lancer des graines qui ne vont pas germer tout de suite, qui vont germer dans quelques années ou ne pas germer. Mais voilà, accepter aussi cette de faire partie de ce long processus de germination.
Eh bien, merci beaucoup, Gaspard Dehaene. On suivra pour voir les suites de la germination. On pourra vous écouter le 25 avril à la Charité-sur-Loire, le 21 mai à Maison Lafitte. Il y a des gens qui, le 12 mai, veulent aller à Montréal, ils peuvent. Ouais. J'ai quelques doutes, mais au cas où, si certains sont passés.
La folle journée au Japon, début mai aussi, et le 2 juin à la Salle Cortot, ça c'est plus proche à Paris.
Et je voulais aussi surtout signaler que le 23 mars, on pouvait aller voir on pouvait aller écouter et applaudir Gabriel Durlia qu'on avait reçu à La Relève, qui donnera un concert au Théâtre du Bouffe du Nord. Voilà, je crois que là j'ai tout fait. Merci beaucoup encore une fois, Gaspard Dehaene. Je redis merci à Catherine Leroux qui est partie depuis pour Peuple de Verre aux éditions de l'Olivier. Vous, votre disque s'appelle Forêt en héritage. C'est chez Mirare. Voilà, voilà, c'était La Relève, émission présentée, préparée par Christophe, réalisée par Pablo. À 19h, vous allez retrouver la matinale 2. Radio Campus Paris et pas Radio Classique. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Radio Classique. Non, c'est Radio Campus Paris. Nous, on se retrouve dans 15 jours et puis on se retrouve en podcast sur le site de radiocampusparis.org. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup.